Vous écoutez France Musique.
Aujourd'hui, les inventeurs du trio, deuxième émission avec Benjamin Mousset, Arnaud Cuisinier et Éric Champard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 128e émission du Matin des musiciens de jazz du mardi. Aujourd'hui, nous allons continuer à explorer l'histoire de ce triangle magique que constitue le trio piano, contrebasse, batterie. Mardi dernier, nous avons défriché les années 40 et 50 avec Duke Ellington, Teddy Wilson, Thelonious Monk, Bud Powell, Lenny Tristano, Errol Garner et Oscar Peterson, entre autres. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur l'histoire du trio dans les 20 dernières années, autour d'un pianiste comme Brad Mehldau notamment. Et aujourd'hui, pour le chapitre central de cette épopée, il sera question d'une large période particulièrement créative entre la fin des années 50 et la fin des années 80. Nous visiterons l'atelier d'Ahmad Jamal, inventeur d'un trio spatialisé, où le silence et les contrastes dynamiques contribuent à alimenter un scénario toujours renouvelé. Nous côtoierons le trio de Bill Evans, qui réinvente l'art de la conversation avec ses partenaires Scott Lafaro et Paul Mossian. Nous nous laisserons prendre au jeu du trio de Martial Solal, virtuosissime et toujours pétillant. Nous admirerons les qualités télépathiques du trio de Chick Corea avec Miroslav Vitos et Roy Haynes. Nous nous laisserons gagner par la transe et l'émotion du trio de Keith Jarrett avec Gary Peacock et Jack DeJohnette. Et bien sûr, nous traverserons d'autres paysages hors des sentiers battus dans des territoires un petit peu moins explorés. Je pense notamment au trio de Paul Blay. Et si nous ne citerons pas tout le monde, c'est pour mieux mettre l'accent sur les procédés, sur les innovations qui ont marqué chaque génération et enrichi l'histoire de cette musique. Et comme la semaine dernière et la semaine prochaine, nous avons la chance d'accueillir, pour des exemples musicaux sur le vif, le trio du pianiste Benjamin Mousset avec Arnaud Cuisinier à la contrebasse et Éric Champard à la batterie. Encore merci à tous les trois. Bonjour Benjamin Mousset.
Bonjour Arnaud.
Aujourd'hui, nous arrivons à la fin des années 50. C'est une période de rupture. On voit arriver le free jazz, on voit arriver le jazz modal. Tout change à la fin des années 50 et l'histoire du trio piano-basse-batterie continue.
L'histoire continue, effectivement, et prend tout son essor, tout son envol, parce que c'est vrai que dans une période très courte, entre par exemple 59 et 62, on observe aux quatre coins des États-Unis et du monde, puisqu'il se passe des choses en Europe aussi, et en France en particulier, des propositions musicales d'une inventivité, d'une diversité absolument formidable.
On ne suit plus une seule voix comme à l'époque du bebop, bien qu'il y avait déjà quelqu'un comme Thelonious Monk qui ne faisait pas la même chose, par exemple.
Absolument.
Mais là, ça s'ouvre encore davantage.
Ça s'ouvre complètement et on a des personnalités très fortes, souvent des pianistes, qui, de par leur jeu, de par ce qu'ils amènent, proposent tout d'un coup des ouvertures incroyables.
Quand on parle d'ouverture, on peut penser à l'espace. C'est précisément ce qui régit le jeu du pianiste Ahmad Jamal. On sait qu'il a commencé avec un trio avec guitare et contrebasse.
Absolument.
Et c'est ça qui a intéressé Miles Davis dans un premier temps, avant qu'il ne le connaisse avec contrebasse et batterie. Mais il a exploité dans son deuxième trio toutes ses facultés d'espace.
Et c'est vrai que quand on écoute certains enregistrements en trio guitare-contrebasse qu'a pu faire Ahmad Jamal, déjà, on voyait toute cette espèce d'architecture qui se mettait en place avec la basse qui avait des rôles particuliers de jouer des ostinatos, par exemple la guitare qui était des fois utilisée comme un instrument de percussion. Et là, tout d'un coup, Ahmad Jamal s'entoure de deux complices extraordinaires qui sont Vernel Fournier à la batterie, Israel Crosby à la contrebasse, et avec ces deux compères qui, eux, finalement participent autant que Jamal au son du trio en créant un son collectif, en cherchant finalement une typicité dans chacune de leurs actions. C'est ça que j'adore dans ce trio-là. Il n'y a absolument aucune note, aucune intention qui est laissée au hasard. Et Jamal, là-dessus, lui, se permet de ne pas jouer. Et tout d'un coup, de jouer avec une densité extraordinaire, de proposer des idées, c'est ludique. On a tout un espace qui est créé devant nous en temps réel. Formidable.
We'll be right back. Une jolie petite chanson de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, Sherry with a Fringe on Top, ici par le trio de Hamad Jamal, piano, avec Israel Crosby à la contrebasse et Vernel Fournier à la batterie. C'était au Pershing de Chicago en janvier 1958. Un tempo tout à fait enlevé, un terrain de jeu absolument extraordinaire pour les trois musiciens qui inventent sans arrêt un sens de l'espace aussi avec cette utilisation du registre aigu de la main droite du piano. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées ici.
Il y a énormément d'idées, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les riffs, c'est-à-dire ces petites phrases répétitives comme ça qui sont jouées. Et ce qui est absolument génial, c'est comment Jamal joue avec le fait de, par exemple, citer une phrase trois fois et la quatrième fois, il ne va pas la jouer, mais la batterie va répondre. Ça me ferait presque penser à de la musique répétitive, voire même peut-être de la techno. On dirait des blocs de séquences comme ça qui tournent en boucle et paf, tout d'un coup, on a un virage à 90 degrés, on part ailleurs.
Il joue avec notre mémoire, avec notre capacité de nous remémorer les phrases musicales.
Ce qu'on attend et puis on l'attend et en fait, il ne le fait pas. Et donc, c'est tout le temps plein de surprises. C'est extraordinaire.
Sur le plan rythmique, ce sont d'excellents musiciens, évidemment. Le contrebassiste Israel Crosby, ici, joue à un tempo tout à fait important, une très belle walking bass. Et puis, il y a les ballets de Vernel Fournier qui est absolument formidable, avec comme ça des pêches de temps en temps. Et puis, il y a des petits décalages comme ça, une façon de superposer des rythmes, Benjamin.
C'est déjà précurseur, finalement, de toute une approche rythmique plus moderne. Dans l'émission précédente, quand on parlait d'Errol Garner, on avait vu que Errol Garner, à sa main gauche, utilisait des noirs pointés. Une noire et demie, donc des petits rythmes qui durent trois croches. Et Hamad Jamal utilise des blanches pointées, qui sont donc des blanches avec la moitié de leur valeur en plus, qui durent donc trois temps. Je vais donner l'exemple un petit peu plus lentement que ce qu'ils ont joué, comme ça on a le temps de comprendre un petit peu. À la main gauche, je joue une ligne de basse en quatre temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. À la main droite, je vais superposer ces blanches pointées, ce qui nous donne ce rythme-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc comme une juxtaposition de deux vitesses.
On va retrouver ce même type d'arrangement très ciselé sur une chanson de George Gershwin, But Not For Me, où l'on voit là une forme de trio équilatéral, c'est-à-dire que finalement le batteur, le bassiste ont la même importance dans l'arrangement que le pianiste. On entend par exemple ici une très belle ligne de basse sur ce But Not For Me de
Gershwin.
Oui, une
réponse mélodique très intéressante.
But Not For Me, George Gershwin, par le trio de Hamad Jamal, Israel Crosby, Vernel Fournier. Vernel Fournier qui a une petite action rythmique ici, comme une cocotte de guitare, comme on a vu dans le premier trio. Et puis, bien sûr, Israel Crosby qui a un rôle considérable et dans un espace qui est vide parfois. C'est ça qui est très intéressant.
Oui, c'est très beau, l'arrangement est construit en question-réponse avec le thème qui est joué au piano. De cette manière formidable, toujours en arrière, toujours en retard, comme si Hamad Jamal venait créer chez nous le désir d'entendre ce thème. Il y a vraiment un rapport au désir très fort chez Jamal, je trouve. Et Israel Crosby qui répond. Et on a vraiment un dialogue entre le thème et la contrebasse.
Et ça marche assez souvent comme ça, finalement. Ce trio avec des ostinatos de basse ou de batterie sur des thèmes très mélodiques, oui. Ceux qui permettent d'avoir quelque chose de très plaisant et en même temps de très ludique.
Oui, oui, des éléments comme ça très simples, minimalistes et identifiables.
On va le retrouver dans un autre enregistrement célèbre, enregistré au même moment, le Poinciana de Simone et Bernier.
Autant dans les deux morceaux qu'on vient d'entendre, Sorry with the Fringe on Top et But Not For Me, on a eu soit de la walking bass, soit des réponses mélodiques. Là, dans Poinciana, on va voir que la basse a un rôle précis puisqu'elle fait à peu près toujours la même figure qui va se modifier selon l'harmonie.
Et c'est ce qu'on va retrouver dans Poinciana, qui est un enregistrement historique. Hein, qui
historique,
va être,
oui. En particulier la partie de batterie qui a influencé, je pense, tous les batteurs après. Chaque batteur, à un moment donné, va reprendre son petit Poinciana. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'ils ont inventé. Là.
1958, toujours le trio d'Hamad Jamal. la très célèbre version de Poinciana enregistrée en 1958 par le trio d'Ahmad Jamal avec Israel Crosby et Vernel Fournier. On est vraiment au début de toute une aventure qui se prolonge encore aujourd'hui, Benjamin Mousset, ce type de trio.
Oui, c'est presque déjà un mixeur de musique électronique de nos jours, dans des variations minimalistes. On a ce thème qui se déroule en permanence, on pourrait rester avec ce morceau toute la journée. Puisque finalement, Ahmad Jamal a très bien compris à quel moment on avait bien assimilé la mélodie, à quel moment, dans nos têtes, ça nous est arrivé à tous les deux là pendant qu'on écoutait. On chante la mélodie et finalement, il crée la surprise parce qu'il en invente une autre à ce moment-là. Ouais. C'est génial.
Dans la même génération qu'Ahmad Jamal, exactement un an près, il y a aussi Bill Evans qui est vraiment éclos à la même époque, hein, 1958-1959, c'est au même moment.
Avec Miles Davis au départ et puis très rapidement ensuite avec son propre trio.
Mais dans un registre totalement différent.
C'est complètement un autre terrain d'expression.
Il y a d'abord l'harmonie, très sophistiquée.
Absolument.
Le goût de la mélodie, évidemment. Et puis l'interaction entre les trois membres du trio qui n'est pas du même ordre.
Non, parce que chez Jamal, autant on sent... une volonté de ciseler, je dirais pas de figer les choses parce que c'est extrêmement vivant, mais d'arrangement. Voilà, chacun a un rôle prédéfini. Et donc, chez Bill Evans, c'est très différent puisqu'on sent que tout est basé sur la notion de conversation et sur la notion de spontanéité dans l'instant. Bon, faut dire qu'il rencontre un bassiste extraordinaire qui est Scott LaFaro, chez qui Bill Evans a trouvé immédiatement un partenaire avec qui il pouvait converser en temps réel.
Et Paul Motion à la batterie
qui jouait ce même jeu, voilà. Et du coup, on assiste vraiment à une forme de révolution, puisque c'est sûr que le trio piano, basse, batterie dans le jazz a été différent à partir de Bill Evans.
Avec Ahmad Jamal, on entendait des standards de Richard Rodgers, de Gershwin, qui étaient totalement appropriés par Ahmad Jamal. On pourrait croire que c'était des compositions d'Ahmad Jamal. Avec Bill Evans, c'est aussi, d'une certaine manière, une forme de réappropriation. Parce que quand on entend Les Feuilles Mortes par Bill Evans, ça pourrait être un thème de Bill Evans.
Oui, et puis on sait immédiatement que c'est lui, entre autres grâce à des éléments stylistiques qui sont très marquants et qu'il a apportés. On va parler une nouvelle fois de la main gauche. Puisque Bill Evans étant un grand, grand harmoniste, il a vraiment, je dirais pas que c'est lui qui l'a inventé, mais amené et rendu populaire et célèbre tout un système de main gauche.
Alors on vient d'où dans l'histoire du trio? On vient du stride, on l'a dit la semaine dernière.
Si on se rappelle de, par exemple, Teddy Wilson, il jouait une main gauche de stride.
Ça, c'est le principe alternance, une basse, un accord. Ensuite, on va arriver au bebop.
Au bebop, Bud Powell ou Thelonious Monk utilisaient plutôt des accords un peu plus sporadiques rythmiquement et puis avec deux ou trois notes comme ça qui ressemblent un petit peu à ça. Chez Bill Evans, il y a une petite révolution, c'est qu'il va ôter la basse. Et il va se retrouver avec ce qu'on appelle des voicings, autrement dit des positions d'accord pour la main gauche, plutôt dans le milieu du piano, avec souvent 4 ou 5 notes.
Des
positions assez resserrées, donc avec souvent des tons ou des demi-tons qui vont frotter, qui vont donner une couleur assez spécifique à ces accords et ces voicings. Et sans la basse, comme ça, ça laisse toute la latitude au bassiste de se promener dans l'harmonie, dans la mélodie, et qui sont basés sur des systèmes de contre-champs assez complexes qui permettent de vraiment exprimer le contrepoint de l'harmonie. Je vous donne un petit exemple. Ce qui fait que si on donne maintenant un exemple en trio, en utilisant cette main gauche et une contrebasse un petit peu plus libre, on pourrait faire, enfin sans prétention, une version à la Bill Evans qui ressemblerait à ceci. Évidemment, il n'y a pas que la main gauche, il y a aussi la main droite. J'aimerais attirer l'attention sur une couleur qu'il utilise très souvent, en particulier dans un disque formidable qui est le Live at the Village Vanguard, qui est les block chords. Alors, on a parlé dans l'émission de la semaine dernière avec Oscar Peterson de block chords plutôt aigus, tels que Ahmad Jamal en utilisait aussi beaucoup dans Poinciana, par exemple. Chez Bill Evans, les block chords se resserrent vers le milieu du clavier et pourraient sonner de la manière suivante.
On va laisser All the Things You Are pour l'instant, Benjamin Mousset. On va retrouver Autumn Leaves, donc Les Feuilles Mortes de Joseph Kosma, reprise par le trio de Bill Evans avec Scott LaFaro et Paul Motion. C'était en décembre 1959. Autumn Leaves, le trio de Bill Evans avec Scott Lafaro à la contrebasse et Paul Motion à la batterie. C'était le 28 décembre 1959, un disque tout à fait fondateur de cette esthétique, de ce qu'on appelle l'interplay, la conversation à trois au sein de ce trio. C'est une chose que Bill Evans a beaucoup inaugurée et beaucoup de trios se sont engouffrés dans cette voie depuis, évidemment. Il y a aussi ce qu'on entendait au début de cette interprétation, la façon d'amener le thème, la façon d'introduire une introduction tout à fait arrangée, presque un petit peu comme chez Jamal.
Benjamin, oui, tout à fait. Et Bill Evans, il le faisait dans tous ces standards qu'il a joués qui sont devenus presque des morceaux à lui. Il avait chaque fois sa manière d'introduire. Par exemple, cette introduction sur Autumn Leaves, il la rejoue. En tout cas, très souvent, il fait une introduction avant les morceaux. Bill Evans, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup, quand il travaillait un standard, le travailler dans tous les tons. Ça, on le sait, c'est de notoriété.
Et même quand il joue en concert, on entend souvent se succéder plusieurs tonalités.
Absolument.
Et il module, et parfois on l'entend que quand on analyse la chose.
Tout à fait, puisqu'il a une manière toujours très subtile de moduler. On ne se rend même pas compte que, aujourd'hui, il la joue en do, là, il la joue en mi bémol. Par exemple, une introduction piano solo sur notre standard fil rouge depuis le début de ces émissions, All the Things You Are. Je vais jouer une introduction en jouant le thème, par exemple, la fin du thème rubato, qui va nous amener dans la bonne tonalité à l'entrée du trio. Donc là, on est arrivé au début du morceau. Eh bien, ce qu'aurait pu faire Bill Evans, par exemple, c'est de s'amuser à jouer de cette introduction, mais en fait, un demi-ton au-dessus. Et donc, on arrive finalement quand même à Fa mineur, le premier accord du morceau.
Ça, c'était donc All the Things You Are. Mais effectivement, on a vu que dans Autumn Leaves, il prenait aussi d'autres chemins. Ce qui est intéressant chez Bill Evans, c'est qu'évidemment, il a des partenaires d'exception. Paul Motion, qui fera une magnifique carrière aussi jusqu'à sa disparition relativement récemment. Scott Lafaro, qui malheureusement, lui, va disparaître en 1961, vraiment en pleine ascension d'un tragique accident de voiture. Et Scott Lafaro était aussi un concepteur de musique. On peut dire que là, dans ce trio, vraiment, c'est équilatéral, dans le sens aussi, ils sont compositeurs.
Ils sont compositeurs et le trio de Bill Evans, pendant cette courte existence avec Scott Lafaro, a joué plusieurs compositions de Scott Lafaro. J'ai choisi cette composition Jet Visions. On est dans la couleur, dans l'impressionnisme, dans cette espèce d'évanescence que je trouve magnifique.
Ce qui va ouvrir la route à peut-être toute l'école ECM, toutes les années 70, 80.
Sans doute. Je pense que c'est déjà là, en tout cas embryonnaire, dans ce que propose.
Et puis on arrive aussi vers autre chose, c'est le côté trois temps, donc vers la valse.
Absolument, la valse, on en reparlera après.
Jet Visions, une composition du contrebassiste Scott Lafaro pour le trio de Bill Evans, pianiste avec Paul Motion à la batterie. C'était le 25 juin 1961, quelques jours avant l'accident qui allait coûter la vie à Scott Lafaro. C'est une magnifique composition, écrite avec quelques notes simplement, et puis une proposition rythmique vraiment intéressante.
Je pense que c'est le premier exemple qu'on cite, en tout cas dans notre émission, de trois temps. On n'est plus dans la musique à quatre temps, mais dans la valse, ou le trois temps.
Mais une drôle de valse quand même, parce que la basse n'est pas tout le temps sur le premier temps parfois.
Celle-là est très particulière, puisque c'est en plus des groupes de trois mesures de trois temps. C'est un morceau assez numérologique d'une certaine manière. Je m'en rendais compte en le réécoutant. La basse qui en plus n'est même pas toujours sur le premier temps, du trois temps, ce qui fait qu'on est perdu. D'ailleurs, on sent même qu'ils ont presque une hésitation au milieu et puis qu'ils se retrouvent tout de suite tous les trois.
Ils sont en club, hein, au Village Vanguard.
Absolument.
À New York. Alors qu'est-ce que c'est que le trois temps? Parce que ça va avoir une importance considérable dans l'œuvre de Bill Evans.
Et c'est surtout, voilà, Bill Evans est un des premiers, en tout cas, à s'approprier cette nouvelle métrique qui est un petit peu neuve dans le jazz. Et chez Bill Evans, ça devient une marque de fabrique puisqu'il joue énormément de valses, allant de Someday My Prince Will Come, de grands tubes de musique de cinéma, à ses propres compositions qui sont des fois extrêmement élaborées, on va le voir tout à l'heure.
Mais parfois, il les joue à quatre temps aussi, c'est assez curieux.
Voilà. Peut-être le plus simple, c'est déjà de montrer un petit peu... Tout simplement, la différence entre une mélodie, par exemple celle d'All the Things You Are, jouée en 4 temps et en 3 temps. En trio, on va la jouer déjà normalement à 4 temps. Maintenant, on peut très bien la réinterpréter à 3 temps, ce qui va nous donner... Arnaud, à la contrebasse, des fois, jouait deux notes par mesure dans le trois temps, ce qui revient à faire des noirs pointés en chorale. De toute façon, il y a un truc qui arrive en permanence dans le rythme et dans le jazz, mais qui vient de l'Afrique, je pense, qui est cette conjonction entre le monde binaire, on compte par 2, par 4, par 8, par 16, et le monde ternaire qui se compte par 3, par 6, par 12.
Alors on peut les superposer, on peut les juxtaposer voilà, aussi. Hein. Il y a une époque, Herbie Hancock faisait ça par exemple, superposer le 3 et le 4.
Et Bill Evans s'amusait à un petit jeu qu'il fait parfois en jouant des standards, mais qu'il a aussi exploré dans certaines de ses compositions, qui serait d'alterner dans le même morceau des passages en 3 temps et des passages en 4 temps. On va écouter maintenant une composition de Bill Evans qui s'appelle 3-4 Skidoo, ou 34 skidoo, je ne sais pas. La composition est basée exactement là-dessus, des sections de 8 mesures en 3 temps qui alternent avec des sections de 8 mesures en 4 temps. Mais alors là, on va s'apercevoir du grand art du pianiste et du trio qui ont tellement travaillé leurs 3 temps qu'on ne sait même plus quand ils passent de l'un à l'autre. Moi-même, en tant que musicien, je suis obligé de compter, de me dire « Ouh là, ah bah tiens, ils sont repassés en 3 temps ». La première fois que j'ai entendu ce morceau, je me suis dit « Il se passe un truc bizarre, mais j'ai du mal à comprendre ». Ils le font avec un brio extraordinaire.
34 Skidoo, c'est Bill Evans, cette fois-ci avec Chuck Israels, qui a succédé à Scott LaFaro. Nous sommes en 1962 et toujours Paul Moisson à la batterie. Là, on est à 3 temps.
À 3 temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On est passé en 4 temps, mais sans s'en apercevoir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On est repassé au 4 temps.
Sorry for Skidoo de Bill Evans. Bill Evans avec Chuck Israels et Paul Moisson en 1962. Un état de la valse tout à fait particulier. La valse, ça vient d'Europe, ça vient du 19e siècle. Il y a toute cette culture chez Bill Evans.
C'est vrai, oui, de la culture classique, du piano classique, du son, de la musique classique, évidemment. Il y a vraiment un génie rythmique et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'est pas apparent. L'air de rien, il joue ses mélodies, il joue sa main gauche. En fait, si on se met à écouter de près, on s'aperçoit du placement qu'il a qui est complètement incroyable et d'une liberté et en même temps d'une solidité. Avec tous ces échanges aussi permanents, la main gauche et la main droite, qui des fois répond, qui des fois sont en homorythmie. En fait, c'est un art immense, l'art de Bill Evans.
Il n'est pas le seul un peu dans cette esthétique, Bill Evans. Il y a des musiciens comme Earl Zinders ou Eddie Costa, Dennis Zetlin aussi, qui écrivent aussi beaucoup de valses. Hein. Oui. C'est une époque où on valse beaucoup dans le jazz.
On valse beaucoup, et Bill Evans jouait certaines de leurs compositions aussi.
Alors, puisqu'on parle d'Europe, il y a un personnage qui appartient à la même génération que Ahmad Jamal et Bill Evans. C'est Marcel Solal, qui est proche de vous aussi, Benjamin.
Ce cher Marcel, bien sûr. Hein.
Et c'est quelqu'un qui a vraiment inventé quelque chose dans le trio, et pas seulement dans le trio à cette époque-là.
C'est extraordinaire. Il y a tout le temps énormément d'humour, il y a une inventivité permanente, il y a une grande vivacité. je sais qu'il a enregistré des hommages à Tex Avery. Il y a vraiment un monde de dessin animé dans sa tête extrêmement ludique, où on passe comme ça d'une idée à l'autre, c'est foisonnant. Et ce que je trouve formidable, on va écouter des enregistrements de 1960, quand je replace ça dans le contexte et je me dis qu'en 1960, en Europe, il pouvait jouer et composer une musique pareille, qui n'a absolument rien à envier aux plus grandes avancées, qu'elles soient de Duke Ellington, de Bill Evans ou d'Ahmad Jamal, c'est formidable.
Alors quand il jouait des chansons originaires de Broadway, il avait tendance à déstandardiser les standards,
oui.
C'est ce qu'il aimait faire.
Il le faisait souvent en solo ça d'ailleurs.
Mais il écrivait aussi beaucoup de compositions personnelles, souvent sous forme de suites auxquelles il ajoutait des petits morceaux comme ça jour après jour avec son orchestre. Il procédait aussi comme ça en trio.
On a chez lui un grand art de l'arrangement, d'ailleurs d'une exigence formidable parce que le trio qu'on va entendre avec Daniel Humer et Guy Pedersen, et d'une virtuosité, c'est-à-dire que même de nos jours, jouer ça avec un trio, c'est vraiment de très très haut vol.
C'était un très bon bassiste, Guy Pedersen, et puis Daniel Humer, batteur que l'on connaît bien,
qui arrivait tout juste à Paris.
Suisse, hein, il est arrivé en 1958 à Paris.
Et donc on voit plein d'idées comme ça, et Martial utilise, un peu à l'instar de Duke Ellington dont on parlait dans l'émission précédente, il utilise aussi les timbres du piano, de la main gauche, il est extrêmement varié dans son orchestration, comme si le trio était un prolongement de son big band ou son big band un prolongement du trio, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est une musique extrêmement espiègle et joyeuse. J'aime beaucoup, moi.
Ouin Ouin, c'est un blues signé Martial Solal avec Guy Pedersen à la contrebasse et Daniel Humer à la batterie en 1960. Un type d'arrangement ici où on a l'impression qu'on est en orchestre pour l'ensemble du trio, comme si c'était un seul instrument, le piano, basse, batterie.
Comme un petit peu aussi dans un quatuor à cordes où on a une espèce d'unisson d'orchestre qui n'est pas un unisson puisqu'il ne joue pas exactement les mêmes notes, mais ça préfigure beaucoup de choses. Je pense en particulier à Joachim Kühn, dont on parlera un petit peu dans la.
Encore avec Daniel Humer et Jean-François Chénard.
Voilà. Mais oui, c'était cette notion d'unisson d'orchestre. Cette musique entrecoupée, alors c'est un blues, je rassure les auditeurs, ça n'était pas passé en accéléré, c'était la vitesse réelle. Et on se demande comment, c'est supraluminique pour moi comme vitesse.
Il y a quelque chose qu'on entend bien ici dans le jeu de Martial Solal et qu'on va retrouver ensuite, c'est cette façon de jouer de la main gauche avec une basse et un accord, un peu comme ce qui venait du Stride ou ce que Errol Garner avait pu prolonger. Oscar Peterson fait ça aussi.
Oui, voilà, et chez Martial, c'est vraiment une de ses signatures de main gauche, c'était basse, accord. Je vais vous donner un petit exemple, c'est plus simple. Chez Martial, forge une fondation très solide pour après toutes ces arabesques de main droite.
On le retrouve par exemple dans ce thème Very Fatigué, ça s'appelle. Un thème de Martial Solal, nous sommes toujours avec Guy Pedersen et Daniel Humer.
Thank you.
extrait de Very Fatigué. Ils n'ont pas l'air très fatigués, Martial Solal, Guy Pedersen et Daniel Humer. C'était donc en 1960. On a entendu des exemples extrêmement divers jusqu'ici dans cette émission avec le sens de l'espace et l'arrangement très sophistiqué chez Ahmad Jamal. La conversation assez libre, mais tout de même dans une structure très contrainte sur le plan harmonique avec Bill Evans. C'est aussi très inventive. Ici, on a une espèce de méga instrument avec Martial Solal, quelque chose de très ludique, de très fantaisiste, de très inventif. On n'a pas encore exploré les terrains de l'improvisation libre que va fouler quelqu'un comme Paul Bley à la même époque. C'est la même génération. Hein.
Exactement la même époque. Paul Bley, effectivement, avec ses différentes expériences en trio, il a eu plusieurs trios. Il explore des univers que, à mon avis, il est un peu le premier à explorer. En particulier, dans un premier thème qu'on va entendre, qui est un thème de Carla Bley, une magnifique chanson qui s'appelle « Ida Lupino », sur un rythme un petit peu latin. Il va explorer une improvisation qui n'est plus modale, puisque même s'ils partent d'une note, qui est le sol, qui est la tonique de ce morceau, ils commencent à improviser autour de sol, mais après, ils prennent leur liberté, voilà, tout en restant un peu dans l'esprit, dans le son du morceau, mais c'est complètement libre.
Enregistré à Rome en 1966, le trio de Paul Bley avec Mark Levinson à la contrebasse et Barry Anciulli à la batterie, dans une composition de Carla Bley, Ida Lupino. Alors qu'est-ce qui se passait exactement ici, Benjamin?
Il
joue le thème et puis ensuite ils vont ailleurs.
On pourrait appeler ça invention mélodique spontanée ou variation mélodique spontanée sur un thème. C'est-à-dire que son terrain de jeu, ça n'est plus la grille d'accord du morceau ou une forme précise de 8 mesures ou 16 mesures, mais c'est le matériau et le son ambiant qui est proposé par la composition que lui va développer.
Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans tous les trios d'aujourd'hui.
Enfin, à partir du moment où ça a été fait par lui dans ces années-là, ensuite, il n'y a pas un trio de nos jours qui n'utilise pas ça dans l'une ou l'autre composition. C'est quasiment omniprésent. Moi, je propose de vous donner un petit exemple sur un morceau que j'ai écrit qui s'appelle « Fleur bleue ». Ce qu'on fait quand on joue ce morceau, effectivement, on joue le thème. Quand on arrive à la fin du thème, on se retrouve sur une pédale de dominante. C'est la couleur suivante. On part de cette pédale de dominante, on va librement jouer en gardant un petit peu le rythme, le caractère, pour retrouver la mélodie du thème. On va jouer sans trio, on vous joue la fin de la mélodie, on part de cette couleur de dominante, on improvise librement et puis on essaie de se retrouver ensemble sans rien se dire.
Alors, vous faites des signes ou c'est juste à l'écoute ?
Là, c'est à l'écoute.
D'accord.
Dans l'intention musicale, dans la phrase, on essaie de suivre, puis à un moment donné, le thème va réapparaître.
Merci Benjamin Mousset, Arnaud Cuisinier et Eric Champard pour cette fleur bleue composition que vous avez signée, Benjamin, un petit peu dans l'esprit de ces trios de Paul Blay,
ouais,
qui s'appuient souvent sur des compositions extrêmement minimales.
Oui, là on va entendre un univers un petit peu plus sombre peut-être, où on va l'entendre aussi utiliser les cordes du piano, puisqu'il donne un grand coup dans le grave des cordes. C'est une composition qui s'appelle « Flotteur » de Carla Blay. Est-ce qu'on peut réellement appeler ça une composition ? Il y a juste deux notes qui sont citées 4 ou 5 fois, mais qui donnent tout un tremplin au trio de Paul Blay, cette fois-ci avec Steve Swallow et Pete LaRocca. Pour séparer, je pense que c'est un des premiers exemples qu'on a dans l'histoire du trio, une improvisation complètement libre. La basse fait une walking bass, la batterie joue un rythme swing, mais Paul Blay, lui, improvise complètement librement des lignes.
Nous sommes en 1962, nous sommes donc des années avant ce que fera le trio de Keith Jarrett, par exemple.
Ouais.
Flotteur, un thème, si l'on peut dire, de Carla Blay, c'est vraiment une suggestion, une simple proposition, ouais, sur laquelle vont improviser Paul Blay, Steve Swallow et Pete LaRocca. C'est évidemment à cette époque-là, dans les premières années des années 60, le moment où éclot le free jazz. Alors on peut prolonger ce que faisait par exemple Lenny Tristano, qui a été un des premiers à enregistrer des solos totalement improvisés. En trio, on peut aussi improviser.
Et on va avoir un exemple assez étonnant d'un pianiste qui n'est à mon sens pas aussi reconnu qu'il le mérite, Claire Fischer. Il est plus connu comme arrangeur, mais c'est un pianiste formidable qui nous a quitté il y a assez peu de temps. Et là, on a un exemple, en 1961, le morceau s'appelle « Bestial », et c'est vrai que vous allez voir, c'est assez bestial. La basse et la batterie jouent librement, toujours quand même dans le code du jazz, c'est-à-dire une walking bass et puis le rythme swing à la batterie, quoique avec des breaks, c'est assez sauvage. Et Claire Fischer, lui, alors là, il n'y a même plus de thème. C'est ça qui est très novateur. C'est qu'il n'y a plus de thème, il improvise librement à des unissons de main droite. Il fait des espèces de figures mélodiques.
Le trio de Claire Fischer avec Victor Ruiz Pathos à la basse et Salvador Aguero à la batterie. C'est enregistré au Mexique en 1961, une improvisation intitulée Bestial. Alors là, on est vraiment dans le free, sur swing, si l'on peut dire, oui. Benjamin.
La seule chose qui n'est pas free ou libre, c'est le tempo qui reste très identifiable comme étant du jazz.
Vraiment héritier de Dini Tristano, là, on est dans le même esprit.
Absolument. Et Claire Fischer utilise plein de choses. On voit qu'il fait des espèces d'interventions sporadiques avec des, on va appeler ça des patterns, c'est encore un terme anglais, mais c'est-à-dire des motifs mélodiques. Il utilise des cartes, on a pu l'entendre à la fin. Ce genre de figure. Et là, il préfigure évidemment l'immense pianiste McCoy Tyner, qui à cette époque-là travaille avec John Coltrane, qui est avec John Coltrane dans la pleine exploration du jazz modal, c'est-à-dire cette idée d'improviser sur des longues plages du même accord, qui dure voilà, 8 mesures, 16 mesures, qui changent de temps en temps. Et McCoy Tyner sort en 1962 un disque assez fondateur dans l'histoire du trio, qui est Reaching Forth. Le nom d'ailleurs du disque comporte le terme carte. Et dans Reaching Forth, on va écouter le morceau éponyme, McCoy Tyner utilise comme terrain de jeu pour le trio une grille composée de deux accords. Le premier, c'est mi mineur. Le deuxième, si bémol septième, sus 4. Alors, c'est le fameux accord sus 4, très moderne et très répandu à l'époque du jazz modal. Et on va l'entendre comme ça. C'est donc un jeu sur le rythme plus que sur l'harmonie, puisque les accords durent très longtemps. Développer toute une interaction rythmique avec la basse et la batterie de Roy Haynes.
Et Henry Grimes à la contrebasse. Une composition de McCoy Tyner avec Henry Grimes à la contrebasse et Roy Haynes à la batterie. C'était en novembre 1962. Quelques années plus tard, un autre pianiste très important fait son apparition, c'est Chick Corea. Et avec le contrebassiste Miroslav Vitos et le batteur Roy Haynes, que l'on retrouve là encore présent sur cette scène du trio, il y a une forme de télépathie qui va s'établir. Et là, on peut vraiment dire que l'instrument est géré comme une seule entité, que le contrebassiste va presque anticiper les phrases de Chick Corea et que Roy Haynes va répondre de la même manière.
Chick Corea arrive avec sa technique, son formidable, plein de concepts un peu neufs, harmoniques, de jeux sur les cartes, sur des systèmes, et des compositions très construites, très arrangées, avec des introductions, des codas, des éléments qui se passent à l'intérieur du morceau, et aussi parfois des concepts complètement libres, puisqu'ils vont explorer l'improvisation libre à trois. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire, Arnaud, c'est totalement télépathique. Ils se suivent comme des chats, des souris. Enfin, il y a une grande vivacité, il y a un son trio. C'est vrai que je pense que le monde du trio piano, contrebasse, batterie a été différent à partir du moment où ce disque fondateur qui est Now We Sings, Now We Sobs est sorti. Il y a un morceau que moi j'aime beaucoup qui est le morceau titre, Now We Sings, Now We Sobs, qui est une valse très différente finalement de la valse telle qu'elle pouvait être jouée par Bill Evans, précédée d'une intro un petit peu militaire, où Roy Haynes se joue comme ça de la caisse claire, on se croirait un peu dans une musique militaire, avec l'utilisation d'harmonies très subtiles et formidables de la part de Chick Corea, un rôle de la basse, enfin, je vous laisse écouter. Thank you.
Un extrait de Now He Sings, Now He Sobs de Chick Corea. Chick Corea ici avec Miroslav Vitus à la contrebasse et Roy Haynes à la batterie. C'était en 1968. Là, c'est une composition de Chick Corea à partir de laquelle ils peuvent improviser, mais bien sûr sur une contrainte qui est celle de la composition de Chick Corea.
Tout à fait.
On les connaît aussi, improvisateurs dans la liberté la plus totale. Et il y a bien sûr tous les intermédiaires possibles, Benjamin Mousset.
Oui, je vous propose peut-être de donner un petit exemple en trio sur un morceau que j'ai écrit qui s'appelle Entangling Ground. C'est une composition sous forme de phrases rapides qui sont presque des phrases un peu improvisées. On va jouer deux phrases. À la fin de la deuxième phrase, on a une improvisation qui est libre, au sens où on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Simplement, ce qu'on sait, c'est qu'on va viser un point de départ qui est la quatrième phrase du morceau qui va nous permettre d'arriver jusqu'à la fin de la composition.
Mais vous ne savez pas à quel moment vous allez vous retrouver. Ça se fait sur le moment.
Ça se fait sur le moment. Et effectivement, c'est un espace qui est très intéressant dans lequel on peut explorer plein de choses puisque quand on improvise librement, il peut se passer toutes sortes de choses. Les musiciens peuvent se positionner les uns par rapport aux autres en jouant avec, en jouant contre, en question-réponse ou bien en trois discours complètement distincts et puis linéaires. Et finalement, ce qui va être marquant, c'est de réussir à se retrouver ensemble sur le départ du thème de fin.
On vous écoute, Benjamin Mousset, Arnaud Cuisinier, Éric Champard. Entangling Ground, c'est une de vos compositions, Benjamin Mousset, une composition où il y a beaucoup d'improvisation, très libre. Alors on peut aller encore plus loin, hein, c'est ce que font Chick Corea, Miroslav Vitus et Roy Haynes, partir presque sur un prétexte, ils sont en studio, et puis, ou même aucun prétexte.
Je pense qu'ils se sont rien dit, et c'est ça qui est assez magique dans ce disque Trio Music, dont une face est consacrée à la musique de Thelonious Monk, et l'autre face par opposition, et en même temps, je pense que ça a tout à fait un sens, est consacré à des improvisations complètement libres qui s'appellent Trio Improvisation 1, 2, 3, 4, 5, enfin, je ne sais plus combien il y en a. Là, on va écouter l'improvisation numéro 3. Je pense qu'ils se sont rien dit. Thank you.
reprendrez bien un petit peu de Bartok, Benjamin Mousset, dans votre trio jazz.
Voir un peu de Stravinsky.
Chick Corea, Miroslav Vitus et Roy Haynes en 1981. Improvisation totalement libre, mais évidemment, on joue avec sa culture.
Oui, oui, sa culture et ses réflexes.
Autre grand trio mené à cette époque-là, c'est celui de Keith Jarrett avec Gary Peacock et Jack DeJohnette, qui a mis quelques années à se constituer d'abord sous le nom de Gary Peacock et puis ensuite sous les trois noms de Jarrett, Peacock et DeJohnette. D'abord autour des standards de l'histoire du jazz, Benjamin Mousset, c'est une nouvelle approche dans les années 80.
Tout à fait, puisque Keith Jarrett sort d'une petite décennie, on va dire, après son expérience avec Miles Davis, de beaucoup de compositions. Il écrivait des morceaux de musique qui faisaient appel à du free jazz, à des musiques orientales, à de longues plages d'improvisation.
Souvent en quartet avec des soldats.
Piano, contrebasse, batterie, saxophone, que ce soit avec son quartet américain ou son quartet européen. Des expériences mystiques, toutes sortes. Et après cette première séance fondatrice Tales of Another, qui est sous le nom de Gary Peacock, où ils se réunissent pour la première fois avec Gary Peacock et Jack DeJohnette, pour former un des trios qui, je pense, a le record de longévité dans l'histoire du jazz.
Depuis 1983, ça fait
depuis
plus de 30 ans.
Ouais. Plus de 30 ans. Ils se retrouvent dans le début des années 80, sous le nom de Keith Jarrett, pour le label ECM, pour une session où ils enregistrent des standards, et qui va devenir une session absolument mythique, standard volume 1 et volume 2, et un disque d'improvisation, qui est enregistré lors de la même séance. Et c'est là qu'ils posent les fondations de leur trio, qui pendant les 30 années à venir va jouer des standards, et de manière absolument sublime, et également des improvisations libres, ou bien des extensions de standards, ou des introductions, ou des codas, puisque Keith Jarrett a cette grande spécificité de développer l'art de l'introduction, l'art de la transition entre deux morceaux, l'art de la coda qui se développe.
C'est une façon de prolonger à la fois le travail de Bill Evans avec Scott LaFaro et Paul Bossian, à la fois celui de Paul Bley. On se souvient aussi de Lini Tristano. Il y a beaucoup de pères fondateurs derrière Keith Jarrett.
C'est sûr. Ce qu'il y a de neuf et de formidable dans les longues plages d'improvisation qu'ils vont faire à trois, des fois pour faire une transition de deux morceaux ou comme intro ou comme coda, c'est que c'est plus un pianiste qui improvise, c'est un trio qui improvise.
On ne peut pas parcourir 30 ans de discographie du trio de Keith Jarrett avec Gary Peacock et Jack DeJohnette. On s'arrête simplement avec un petit coup de projecteur sur un enregistrement phare réalisé à Munich en juillet 1986, en concert à la Philharmonie de Munich. Et tout de suite, pour donner un exemple de ce qu'ils font dans un tempo assez rapide sur un standard. Oui. Ça s'appelle « You and the Night and the Music ». C'est un vieux standard beaucoup joué dans l'histoire du jazz. Et ici, ils en donnent une version absolument magnifique. You and the Night and the Music, Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette. Il y a un rapport au débit, au flux, qui nous ramène à l'époque de Lini Tristano et du bebop.
Tout à fait.
Ici, on est presque dans le bebop, finalement.
On est dans le bebop, un bebop moderne. En tout cas, dans les chemins mélodiques et les choix que fait Keith Jarrett à la main droite, on est vraiment dans le bebop, dans un prolongement de Bud Powell et de Lini Tristano.
Un petit peu plus tard, toujours sur ce même standard, le trio de Jarrett va se ménager une sorte d'extension. C'est d'ailleurs inscrit comme tel sur la pochette, comme si c'était une nouvelle composition improvisée probablement sur le moment.
C'est-à-dire qu'il ne joue pas le thème de fin, dans cette version qui est très longue, hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas la passer en entier, mais il ne joue pas le thème de fin, il reste toujours sur cette forme A-A-B-A, et il va y avoir un solo de basse. Alors comme Gary Peacock en faisait très souvent sur les tempos rapides, et en fait très souvent avec le trio de Keith Jarrett, c'est qu'il va jouer juste simplement des noirs, un début doum-doum-doum-doum-doum-doum, comme ça, très mélodique. Jarrett se retire un petit peu du jeu et ça fait un solo de basse. Et ce solo de basse va se transformer peu à peu en extension, telle que c'est noté sur la pochette du disque. Il reste sur la forme du morceau et il développe toute une espèce de, je pourrais dire, cathédrale sonore. Peu à peu, ils vont lâcher la forme du morceau pour se concentrer sur l'harmonie principale du morceau qui est do mineur, pour faire toute une transe à trois, enfin quelque chose de formidable. On va l'écouter et peut-être commenter au fur et à mesure ce qui se passe. Et ensuite, on va voir une seule note qui va émerger, qui va être un si bémol. Et sur cette note, Keith Jarrett va élaborer une des intros dont il a le secret absolument lyrique et formidable pour amener au morceau suivant qui est Someday My Prince Will Come. Là, on est donc dans le solo de Gary Peacock. Et là, on est au début de la forme. On arrive au pont. Début de la forme. Le pont. On entend Gary Peacock à la contrebasse qui reste sur le sol, la dominante. Et là, il rejoint la tonique. Le pont.
Là, on a changé de progression harmonique.
En fait, ils ont étendu la grille, comme si elle déroulait deux fois plus lentement. Là, ils sont sur le pont. C'est la nouvelle mélodie que vient d'inventer Keith Jarrett qui a amené ça. Et ça, on l'a déjà entendu il y a environ une minute, un prémisse de cette mélodie, et c'est là qu'elle jaillit enfin. Extraordinaire. Les plans sonores donnés par le piano. La main gauche, la main droite, les différentes tessitures. Ils sont sur le pont de nouveau. Presque chez Moussorski, tableau d'une exposition. Là, ils sont arrivés sur do mineur. Ils sont plus dans la grille. Et la Peacock extraordinaire qui amène un riff de basse. Comme si chacun, à son tour, allait nourrir la matière sonore. qui s'entretient. De Jeunette. Là, le si bémol qui apparaît au piano. Changement de tempo. C'est une valse qui lui vient spontanément. C'est-à-dire, on se demande ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Quand même. Cette musique qui jaillit, moi, je trouve ça magnifique. Petit développement. Et on arrive au standard. Et on voit bien que rien n'était prévu, puisque Gary Peacock et Jack de Jeunette n'étaient pas au courant et rentrent à ce moment-là, c'est génial.
Ça s'appelle « Someday my prince will come », « Un jour mon prince viendra », évidemment. On ne l'avait pas vu arriver après ce « You and the Night and the Music » enregistré en juillet 1986 à la Philharmonie de Munich, Benjamin Mousset. Alors, évidemment, là, on peut parler jusqu'au bout systématiquement.
Non, voilà. C'est-à-dire que la version totale de ces trois morceaux collés fait 25 minutes, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc.
Mais c'est aussi un champion de la coda qui s'arrête.
Oui, oui. Chez Jarrett, la coda devient un espace de liberté qui s'ouvre. Très souvent, en tout cas dans les balades, en piano seul, je vous propose simplement de vous donner un petit exemple. On est toujours dans notre fil rouge All the Things You Are, qu'on va jouer en balade, et je vais improviser une petite coda un petit peu à la Jarrett, qui reprend souvent d'ailleurs des éléments thématiques du standard.
Tout en modulant pour
arriver finalement à un accord final où Arnaud et Eric vont me rejoindre, simplement sur l'accord final. Thank you.
Merci Benjamin Mousset pour cette coda sur All the Things You Are, rejoint par Arnaud Cuisinier et Éric Champard, votre trio qui est avec nous ce matin et qui le sera encore la semaine prochaine. Alors si l'on parle de Keith Jarrett avec Gary Peacock et Jack DeJohnette, on voit qu'ils ont des périodes de transe comme ça entre deux morceaux, ou alors tout simplement dans un concert, ils vont lancer un riff, une sorte d'ostinato, et ils vont pouvoir jouer pendant 10, 15, 20 minutes.
Et il y a un petit thème prétexte très court. Là, on va en écouter une que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Cure, sur le disque du même nom, qui est simplement un petit riff de main gauche, qu'on va entendre, et qui donne le prétexte à presque plus de 10 minutes d'improvisation collective, avec un petit thème. Alors, on va reprendre le morceau, pas tout à fait au début, mais au moment où j'arrête, je joue le thème à la main droite. Et ensuite, on va les entendre un petit peu. Alors ça, c'est une de leurs grandes spécialités, c'est trans collective.
Une manière de prolonger un peu ce que faisait finalement Ahmad Jamal avec son trio.
Absolument, et John Coltrane aussi. On peut, évidemment, on repense à Love Supreme, des choses comme ça.
Extrait de The Cure de Keith Jarrett, Gary Peacock et Jack DeJohnette, enregistré en 1990 à New York, au Town Hall. Benjamin Mousset, évidemment, on ne peut pas citer tous les pianistes importants de cette génération. On aurait pu évoquer Kenny Barron, toujours très actif aujourd'hui, ou encore Steve Coon, que l'on voit un petit peu moins, mais qui a aussi participé à cette grande aventure
du trio,
du trio piano contrebasse batterie. Certains musiciens plus jeunes se revendiquent aussi de cette tradition, ne sont pas forcément des innovateurs, mais prolongent ce qui a été inventé dans ces années-là. Je pense à Marcus Roberts,
absolument,
ou encore plus récemment, quelqu'un comme Gerald Clayton, que un certain nombre de jeunes musiciens écoutent et vénèrent.
Dans mes élèves en particulier, il y en a beaucoup qui sont fans de Gerald Clayton, qui, voilà, fait partie de cette tradition, on va dire, qui, avec ses petites idées d'aujourd'hui, amène des choses quand même, mais s'inscrit vraiment dans cette grande tradition du trio.
Alors, il faut tout de même citer, dans cette génération née dans les années 1940, un musicien qui n'est pas forcément connu pour son travail en trio, en priorité, c'est Herbie Hancock.
Et en fait, c'est un trio sans être un trio. C'est quand même cette association sublime de Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams.
C'était la section rythmique de Miles Davis.
Qui était la section rythmique de Miles Davis. Et c'est vrai qu'ils se sont assez peu produits et ont très peu enregistré en trio. Mais en fait, en tant que trio, même si c'était au sein d'un quintet, ils ont apporté des innovations majeures. On parlait tout à l'heure avec Chick Corea de télépathie chez eux. Alors là, c'est presque de l'anticipation télépathique, puisque des fois, on entend Tony Williams qui fait l'idée d'Herbie Hancock avant même que ce dernier l'ait faite, ou l'inverse.
Et le feu de Tony Williams, l'assise extraordinaire de Ron Carter, voilà. Et puis l'inventivité harmonique et mélodique de Hancock, et rythmique aussi, la mise en place rythmique de Hancock.
Absolument. Et du coup, ils ont fait très peu d'enregistrements. Ce disque en trio, j'aime beaucoup, qui s'appelle Herbie Hancock Trio, tout simplement, enregistré en 1981 au Japon. C'est une composition d'Herbie Hancock qui s'appelle Dolphin Dance, qui est très intéressante puisqu'elle comporte des passages connectés à la tradition du jazz, avec des accords, des mélodies, et d'autres passages modales dans le même morceau. Et on va voir comment les trois, de manière absolument télépathique, passent d'un aimant à un autre. Des fois, 8 mesures plus tard, ils inventent un nouveau monde musical. Il y a un passage en double time. On avait eu ça chez Oscar Peterson dans l'émission précédente. Enfin, il y a énormément de choses dans cet enregistrement.
Dolphin Dance, 1981. Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams.
Thank you.
Un extrait de Dolphin Dance enregistré par Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams, piano, basse, batterie, en 1981 à Tokyo. Benjamin Mousset, on arrive au terme de cette deuxième émission. On se retrouve encore la semaine prochaine pour les 20 dernières années, les années les plus récentes de cette histoire du trio piano, basse, batterie. Une histoire à laquelle vous participez vous-même avec votre trio, bien évidemment. Alors on pourrait peut-être se quitter avec une de vos compositions qui ouvre vers des idées qu'on va retrouver la semaine prochaine.
Oui, avec plaisir. Alors il s'agit d'un morceau qui s'appelle Escape, qui est connecté à des choses qu'on a entendues dans ces émissions, puisque c'est une valse, c'est un morceau à trois temps au départ. Mais il a ça de particulier que sa forme se décide un petit peu en temps réel. Et ça, c'est des concepts qu'on abordera dans la prochaine émission.
C'est vous qui donnez le signal ou c'est...
Alors, au moment où je joue le thème, c'est moi qui donne le signal pour certains breaks où on va entendre des fragments mélodiques qui relancent à chaque fois la ligne de basse. Et ensuite, à partir du moment de l'improvisation, c'est intéressant, c'est Arnaud Cuisinier.
Le bassiste,
qui lui a à sa disposition trois couleurs, trois lignes de basse en fait. Et en fonction de celle qu'il va choisir, eh ben, on va modifier notre jeu autour de ce qu'il propose.
Très bien. Alors on vous écoute, Benjamin Mousset, Arnaud Cuisinier, Éric Echampart, dans cette composition Escape pour refermer cette deuxième émission. Merci beaucoup Benjamin Mousset, merci Arnaud Cuisinier, Éric Echampart. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour la troisième partie de cette série d'émissions. Merci à Pascal Bénard, Bruno Mourlan, Delphine Baudet, Philippe Thibault et Nicolas Slimani pour la prise de son. Léo Duroy a accordé le piano. Dorothée Cole nous a aidé à préparer cette émission que Christine Amado a réalisée comme chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur le site francemusique.fr et vous abonner au podcast.